Bonjour et bienvenue dans ce nouveau spécial de Comic City, un spécial qui j'espère sera fabuleux.
Ah oui,
En
parce que là, ça
l'occurrence.
commence bien. Là, on a l'impression qu'on assiste à un enterrement, Steve.
Voilà. Donc pour ce spécial, je suis accompagné, comme toujours, de Mister Anybody,
Oui, voilà, vous m'avez entendu, c'est toujours moi.
de Claire,
Et oui, toujours là, fidèle au rendez-vous.
et de notre nouveau membre sur le site, comme dans les podcasts, Monsieur Sam.
Bravo.
C'est moi qui couvre Monsieur Benny de la voix, voilà.
Voilà, donc déjà bienvenue à toi, Sam.
Merci.
Et puis bah, on va pas perdre trop de temps et on va attaquer directement le sujet principal, les contes.
Enfin, fable. Les
Oui,
fables.
voilà, c'était pour pas répéter le mot fable plusieurs fois.
On va le répéter 150 fois là, c'est quand même parti pour.
Donc Fable, série de chez Vertigo qui a commencé à publier en 2002, en tout cas aux États-Unis, puisqu'en France. C'est arrivé un peu plus tard, comme toutes les séries Vertigo. On attend qu'il y en ait au moins 50 avant de commencer à publier.
Voilà, c'est pour ça qu'on a encore 40 épisodes de retard.
Ouais.
Bien, bien comme il faut.
Mais néanmoins, ça marche quand même pas mal, les séries Vertigo en France, faut dire, donc tant mieux.
Mais j'ai l'impression quand même que Fable, ça marche bien en France.
C'est peut-être une des séries qui marche le mieux, ouais, je pense, de chez Vertigo.
Peut-être
Ça
avec
compte pas,
Sandman
mais.
aussi.
Ouais, mais Sandman étant une série terminée, c'est différent, quoi. C'est
Oui, mais ça
difficile.
n'empêche pas de bien marcher.
Ouais, enfin, c'est difficile de comparer, puisque la série est vraiment terminée aujourd'hui, c'est plus que des réimpressions.
Puis il y a la réputation de Neil Gaiman sur la série. Donc.
Oui, aussi.
Voilà, ça va être.
Donc, bah, Fable est une série écrite par Bill Willingham, qu'on a pu voir sur d'autres choses chez DC principalement.
Ouais, comme sur du Batman, très contesté d'ailleurs.
Et principalement au crayon, on retrouve Mark Buckingham. Puisque bon, suivant si c'est un arc ou plutôt des petits épisodes qui s'intercalent, c'est pas forcément notre dessinateur. En tout cas, Mark Buckingham fait la majorité des gros arcs. Et à l'ancrage, Steve Leialoha.
Il est
Voilà.
plutôt bien puisqu'on a une bonne unité visuelle, je dirais, de toute la série.
Ouais.
Grâce au fait qu'on a une certaine constance, ça aide quand même à apprécier encore plus les personnages.
Exactement. Donc, bah, déjà pour commencer, comment vous en êtes venu à Fable?
Bah moi, je vais peut-être commencer en premier parce que ce sera le plus simple. On me parle de Fable depuis des années et comme il y avait un podcast sur Fable à faire, je me suis dit, tiens, bah c'est l'occasion.
Mais en
Et
fait, on
donc,
l'a torturé.
voilà. Et donc, en fait, bah, j'ai lu les Fables pour le podcast.
Sous la
Mais
menace.
voilà, mais je ne regrette pas. Hein. Effectivement, c'était très plaisant. Donc, voilà. J'ai pas vraiment eu le choix.
Comme à chaque fois que tu fais un spécial, d'ailleurs.
Voilà, exactement.
Mais qui se révèle à chaque fois est une bonne surprise.
Bah pour l'instant, oui, j'ai pas été déçu.
2 sur 2 pour le moment, c'est bien. Benny?
Non, bah moi, au fait, j'entendais du bien de Fable, donc je me suis dit pourquoi pas, il y a quelques années maintenant. Et honnêtement, au début, je m'attendais à des histoires, au fait, de Willingham qui allaient parodier les fables, tout simplement, tu vois. Genre, il allait reprendre telle histoire, le petit chaperon rouge et le grand méchant loup, et il allait en faire une histoire de comics, je sais pas, en la parodiant, en changeant quelques trucs. Et au fait, c'est pas du tout ça. C'est un truc. Bah, totalement hallucinant, quoi. Il reprend des personnages de fables, de contes, et il en fait son propre univers, en gros. Et pour raconter une histoire totalement inédite. Donc ça m'a déconcerté au début. J'ai pas super accroché au premier arc, et puis ensuite c'est devenu addictif, quoi, en fait.
Moi, je pense qu'on a tous pas trop accroché au premier arc, en fait.
Tout à fait.
Ouais. Sam, tu en es venu comment, toi, à Fable?
Ben moi, j'avais acheté le premier volume quand Sémi avait commencé. Ça m'avait pas trop. C'était plutôt sympa.
T'as acheté ça sur un coup de tête, en fait?
Ouais, complètement.
Coup de boule.
J'avais entendu la réputation du bouquin un peu. Voilà. Donc j'avais pas continué. Puis quand j'ai commencé un peu avec ma vie, je vais voir. Et effectivement, le deuxième arc et le troisième, j'ai acheté deux volumes d'un coup. Bon, inutile de dire qu'en fait, dans la semaine qui suivait, la série. Voilà. Donc j'ai accroché, c'était fini, là. Hein. Ça y est.
Et toi, comment tu arrives aux fables, Steve?
Beaucoup de reviews sur le net, beaucoup de reviews américaines qui disaient que la série était géniale, et puis un jour je me suis dit, bon, va peut-être falloir que je m'y mette quand même. Et voilà. Tout simple.
Et bien aussi parce que je t'ai dit, il faut qu'on fasse un spécial sur Fable depuis le début.
Oui aussi, oui, parce que j'étais plus qu'en retard sur la lecture, et voilà. Et donc d'ailleurs, je n'ai même pas réussi à tout terminer.
Moi non plus.
De toute façon, personne, hein, je pense.
Parce que bon, franchement, Willingham est très gentil, mais il écrit trop, donc voilà.
Je pense que. On prend la série alors qu'on en est qu'au 54 en France.
Ouais.
Parce que là, on est quasiment au 100 aux États-Unis.
Oui, on arrive au 100 et à très, très, très prochainement.
Je crois qu'on fait bien de faire le podcast maintenant et pas quand on sera à 100.
Oui, ouais, je préfère autant, moi.
Voilà, ça fait un peu mieux.
On est mal barré pour un Red Bullet.
Oui, on est très mal barré.
Donc, bah écoutez, on va parler un petit peu plus en détail de la série. Mm-hmm. Puis bah je vous laisse y aller. Cette fois-ci, je me repose un peu.
Ouais. Moi j'ai des choses à dire, alors je peux commencer si vous voulez. Si vous le voulez.
Bah, déjà, on va peut-être commencer à parler peut-être du premier arc.
Le truc, je disais tout à l'heure, qui est déconcertant, c'est que au début, t'as un certain nombre de personnages que tu connais ou tu ne connais pas. Par exemple, tu retrouves le grand méchant loup. Bon, alors le grand méchant loup, tu vois qui c'est à peu près. Mais tu retrouves plein d'autres personnages, des personnages dont t'as jamais entendu parler, comme Boy Blue.
Oui.
Enfin, peu de gens connaissent Boy Blue, quoi, à la base. Et au fait, tous ces personnages-là sont mixés dans une seule et même ville, au fait, qui s'appelle Fableville, qui est un quartier de New York en réalité. Mais ça, c'est pour ceux qui ont une apparence humaine, en fait, qui peuvent prendre une apparence humaine, puisque les autres, en fait, qui sont des animaux et qui peuvent pas prendre apparence humaine, sont tous exilés dans une ferme.
Ce que l'on découvre à partir du deuxième arc.
Exactement. Ouais. On découvre à partir du deuxième arc, donc on va en parler plus en détail tout à l'heure. Mais ce qui est déconcertant au début, c'est que certains personnages, par exemple le grand méchant loup, bah on se dit il est méchant. Eh ben non, pas du tout. C'est l'un des personnages principaux, il est super sympa. C'est même devenu un détective. Et
C'est le shérif de Fableville.
C'est le shérif, oui, c'est le shérif de Fableville. Et surtout, bah voilà, c'est l'un des personnages les plus sympathiques de la série, l'un des personnages principaux. Et ce qui est assez bizarre au début, c'est de se dire, bah tiens, pourquoi il y a le focus sur tel ou tel personnage, et pourquoi certains personnages parfois très connus là sont quasiment inexistants ou même n'apparaissent pas du tout. Par exemple, je sais pas, Jimmy Neal Cricket, pour le moment je l'ai pas vu. Alors est-ce qu'il va venir à un moment donné, est-ce qu'on le verra dans la série, je ne sais pas. Mais voilà, donc il y a un espèce de choix un peu particulier des personnages principaux, des personnages secondaires, et puis du rôle qu'ils vont jouer, qui est assez surprenant et déstabilisant.
Ce que j'ai trouvé le plus perturbant personnellement, c'est le fait que, l'exemple même, c'est Bigby, c'est le grand méchant loup, mais c'est pas le grand méchant loup juste des trois petits cochons. C'est aussi le grand méchant loup du petit chaperon rouge. C'est le grand méchant loup, en fait, de toutes les fables où il y a un grand méchant loup. Mm. Pour moi, c'est ça
le plus important.
Et voilà, et le personnage le plus dingue, c'est Jack, en fait.
Et en fait, le Jack de tous les contes sur Jack.
Voilà, donc c'est ça qui, pour moi, est le plus dur à mettre en application, autant pour lui que pour nous à comprendre, même si c'est dit clairement.
Moi, j'ai pas eu de souci avec ça. Enfin, moi, vraiment, c'est peut-être parce qu'on avait tellement parlé de fables avant et qu'on m'avait expliqué un peu de quoi ça parlait et tout. Moi, ça, je l'ai vite intégré, en fait, que c'était l'archétype du loup dans chaque fable, on va dire. Non, moi, ce qui m'a plus dérangé dans ce premier arc, c'est le fait, en fait, que je m'attendais à beaucoup plus de magie, du fait que ce soit justement des personnages fantastiques, et le fait que finalement ils se soient vraiment, ça aurait pu être n'importe quel humain, enfin ils avaient vraiment rien de spéciaux.
On commence la série alors qu'ils sont vraiment quasiment intégrés.
Voilà,
à
et
la
moi
société des humains,
ça m'a choqué en fait. Après, quand on arrive avec le deuxième arc avec la ferme, là j'étais plus dans ce que j'attendais finalement.
Mais je crois qu'on en est tous là hein, d'ailleurs.
Mm-hmm.
C'est vrai qu'il faut pas juger la série sur le premier arc, il faut vraiment attendre le deuxième pour vraiment accrocher, parce que c'est vraiment difficile. Quoique j'ai vu certaines personnes sur le net dans le review qui avaient préféré le premier arc. J'ai du mal à comprendre.
Pour contenter tout le monde, moi je dirais qu'il faut vraiment attendre le troisième, enfin les autres histoires après le second arc, pour vraiment apprécier cette série, parce qu'il y a vraiment des trucs excellents ensuite. Mais grosso modo, le premier arc, c'est une enquête.
On pose les personnages en fait.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Enfin, certains personnages, puisqu'au fait, on pose Bigby Wolf, Blanche-Neige et sa sœur, là.
Rose-Red.
Voilà, ouais. D'ailleurs, on se dit, putain, elle a une sœur, ah bon.
Mais en fait, c'est deux contes qui sont mélangés.
Oui. Voilà. Et ce qui est assez drôle aussi, quand on voit le prince charmant au début, c'est qu'on se dit, bah voilà, c'est le prince charmant de tous les contes, donc... il a mis cocu plein de...
trois femmes.
La Belle au bois dormant, etc. Donc c'est assez drôle, quoi.
Mais justement, ça, c'est le. Je trouve que c'est le personnage qui a de multiples identités qui est plus facile à intégrer. Parce qu'il est clairement défini.
Oui, puis en
Mais quand
plus, il
même.
est.
Oui, vas-y.
Non, mais il est dans le. Comme disait Claire, dans le. Comment dire? Dans la. Merde, la caricature, quoi. Enfin, c'est vraiment le prince charmant de base. Le mec qui s'est tout tapé, qui les a toutes laissées tomber. Enfin voilà, donc on est
Et qui peut
vraiment.
pas s'en empêcher finalement, parce que ça fait partie intégrante de son personnage.
Ouais, c'est le
C'est sa
personnage le plus
nature.
simple à.
Voilà. Mais c'est vraiment ça en fait le premier arc, c'est les archétypes de tous les personnages des contes et rien de plus. Et je dirais l'une des grandes qualités de toute la série, c'est vraiment de voir tous ces personnages évoluer au fur et à mesure, pour s'éloigner justement de leur archétype. On voit Willingham les creuser de plus en plus, essayer de montrer de nouvelles facettes. C'est vraiment incroyable.
Il se les est vraiment appropriés, hein, c'est clair.
Ben, je vois là, vous parlez pas mal de Bixby et non, de Bigby. Et je pense que en tant qu'homme, c'est à lui que vous devez vous identifier ou quelque chose quand vous lisez Fable. Moi vraiment, c'est Blanche-Neige, quoi. Enfin, vraiment direct, j'ai eu une identification sur Blanche-Neige et j'ai vraiment lu Fable à travers elle, quoi.
Bon alors, je t'arrête tout de suite. Moi, je m'identifie au prince charmant, comme ça les choses sont claires dès le début. Hein? Pas un gros cul poilu, ça c'est pour Steve, je pense. Bigby Wolf. Et puis Sam sera gomme mouche, hein?
C'est
Voilà.
cela, oui, c'est cela.
À la rigueur, t'aurais pu choisir quelqu'un d'un peu plus, je sais pas moi, charismatique, comme par exemple Beast, qui je trouve
Ouais.
devient charismatique au fil des épisodes.
Ouais,
Oui,
vraiment.
mais au début, effectivement, La Belle et la Bête, donc en français, sont assez, comment dire, en arrière-plan, quoi,
Bah,
sont
on les voit
assez.
passer dans le premier épisode et puis on ne les revoit pas avant très 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 longtemps.
Soit dans les épisodes 30 ou 40, ou sinon, parce que qu'ils prennent la place de Blanche.
Ou Blue Boy
Exactement.
même. Au début, bon voilà, il aide Blanche et on voit que, enfin voilà, finalement, il prend beaucoup d'importance par la suite.
Mais je pense que il a pris ses marques aussi sur la série et même après certains personnages qu'il nous montre, qu'il nous fait découvrir, comme par exemple quand on rencontre Pinocchio. Pinocchio est pas du tout le petit garçon qu'on a vu dans le conte, tout jovial et tout. Il est plutôt le gamin qui est super enfermé sur lui-même, qu'envoie chier tout le monde.
Ouais. Mais attends, le premier arc, c'est je veux niquer.
C'est ça.
Voilà.
Pourquoi suis-je encore petit?
Voilà, ça fait
Voilà.
800 ans que je suis un gamin.
Donc c'est pour ça, quoi. Il a vraiment pris ses marques sur la série. Autant certains. Je pense que pour le premier arc, il y a été mollo pour s'installer et pour donner juste un léger ton de ce que sera sa série, et puis pour se familiariser, pour que les gens achètent. Et dès le deuxième, il en envoie, mais plein, quoi.
Ah bah, ne serait-ce que dans le deuxième avec Boucle d'Or, là, l'anarchiste folle
Anarchiste
des
bouchiste, ouais.
flingues et tout, enfin, franchement, c'est justement à l'opposé de ce qu'on peut attendre de Boucle d'Or, quoi.
Et fan des relations zoophiliques, hein, quand même, faut
Oui, non, mais oui, c'est clair. C'est clair,
le dire. Tu me dis, mais c'est quoi ce truc?
il y a quand même des choses qui sont à la limite du carrément horrible.
Ah bah, de toute
Oui.
façon, c'est marqué Matthew Readers, hein, c'est clair et net, hein. C'est marqué sur les sur les issues. Merde, je trouve plus le mot en français.
Les numéros.
Les numéros.
Mais c'est
Oui.
normal, c'est aussi à cause du langage.
Ah oui, et ça me permet de rebondir sur ce que dit Claire, puisque en fait les dessins, c'est d'autant plus perturbant avec les dessins, parce que dans le premier arc, déjà, les dessins sont tout beaux, tout propres, quoi, ils ont tous une belle tête. C'est pas Willingham, c'est pas
Buckingham.
Buckingham, je veux dire, dans le premier arc. Genre, je sais plus qui l'a fait le premier.
C'est pas
Mais
David
c'est.
Hein.
Ah, j'en suis pas certain.
Je ne
Je
sais
sais
plus.
plus.
Puis là, j'ai pas les trucs sous les yeux pour pouvoir vérifier.
Mais au fait, Buckingham arrive dès le second arc, mais de toute façon c'est pareil, il donne un ton léger à la série, puisque. Enfin un ton. Un aspect, un design léger à la série, parce que les personnages sont tout mignons. Mais par
Oui,
exemple,
mais
tu
ça,
vois les
c'est
portes.
normal. Ça, c'est normal. C'est tout simplement que Buckingham a été l'encreur de Chris Bacalo pendant des années, et il a vachement, vachement émulé le style de Bacalo.
Oui, mais ça, c'est justement, ça colle parfaitement à l'ambiance, c'est-à-dire que d'apparence, tu vois, les personnages de Fab sont tout mignons, par exemple les trois petits cochons, ils sont tout mignons quand tu les vois. Tu te dis, ils vont être super sympas, c'est les trois petits cochons, tu vois, c'est les victimes dans l'histoire. Et pas du tout, au fait.
Ouais, c'est les
C'est
meneurs de la
drôle.
révolution.
Voilà, c'était. Donc le deuxième arc, au fait, qui est centré sur bah, la ferme dont je parlais tout à l'heure, tous les personnages de fable qui ne peuvent pas prendre apparence humaine sont exilés dans une espèce de grosse ferme et ils en ont marre au bout d'un moment, après des années d'être exilés là-bas, donc ils se rebellent, quoi, au fait.
Pas tous, mais certains, ouais.
Certains,
Mais
ouais.
pour revenir sur les dessins, moi justement, enfin, il y a quelque chose qui, je sais pas. Oui, les dessins correspondent, c'est vrai que ça va très bien, mais il y a quelque chose dans les dessins qui cloche. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, est-ce que ça vient du fait justement que les personnages de fable par rapport à ce qu'on s'imagine ne correspondent pas? Je sais pas. Il y a les dessins me plaisent et me plaisent pas en même temps, et je suis incapable de vous dire pourquoi. C'est un sentiment que j'ai en lisant. Des fois ça va aller, et des fois je vais me dire non, ça va pas. C'est vraiment bizarre.
Tu veux dire que c'est inégal selon les planches?
Ben non, non, c'est pas forcément, parce que généralement le même personnage va être dessiné pareil, enfin, mais c'est un sentiment vraiment mixte, quoi. C'est bien, mais en même temps, il y a un truc en trop, il y a un truc qui manque, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui cloche.
Ça vient sans doute justement que les personnages n'agissent pas comme on peut le penser.
C'est possible, ouais.
Et il y a un côté justement super malsain, puisque ils sont tout mignons, mais Fab, bien souvent, c'est super trash, super gore. Ça, ils sont complètement, enfin, il explose tous les codes, au fait. Willingham explose tous les codes des personnages de Fable et les met dans des situations genre certains personnages, ça va devenir des tueurs psychopathes. Enfin, limite quoi, tu vois, c'est il brise tous les interdits. Et du coup, avec des dessins qui en apparence sont super enfantins, ça crée une impression effectivement de malaise, quoi, parfois.
Mais je pense, ouais.
Ce qui est perturbant, en fait, voilà.
Moi, les dessins dans l'ensemble me plaisent plutôt bien, même si, bon, voilà, je suis vraiment pas le plus grand fan de Bacallo, bien au contraire. Mark Buckingham a beaucoup pris du style de Bacallo après l'avoir ancré pendant des années. Il a pris certains des défauts que je n'aime pas chez Bacallo, c'est-à-dire de faire rajeunir les personnages sur certaines cases. Il y a certaines cases où, par exemple, Snow White, enfin Blanche-Neige, a une tête de 8 ans, quoi. C'était le même problème qu'il y avait sur Generation X à l'époque où Bacallo était dessus.
Moi, je dirais que certains personnages sont un petit peu trop joufflus, tu vois, un petit peu trop gonflés d'un seul coup.
Là, ce qui leur donne ce côté enfantin.
Avec des gros nez, etc. Ils ont un petit peu des têtes de troll par moment, alors.
J'ai pas remarqué, ça m'a pas.
Ouais. Non, mais bon, après, c'est vraiment que sur certaines cases, après, sur d'autres passages, il n'y a aucun souci. Et,
mais le truc, c'est qu'il a commencé sur des super-héros, par exemple, sur Spider-Man, à être très, très connu, quoi. Et je trouve que là, franchement, c'est un style qui lui va, mais à merveille, les personnages des fables.
Ah oui, mais ça correspond bien.
Alors que les super-héros, j'accrochais pas du tout à son style. Mais là, franchement, sur sur cette série, je trouve ses dessins assez formidables par moment, quand même.
Bah, il donne ce côté féerique qui correspond tout à fait à la série.
Ouais.
Et vous en pensez quoi des couvertures?
Elles sont magnifiques. Hein.
Les couvertures de James Dean sont magnifiques.
Ouais. Oui, voilà, c'est des compositions vraiment qu'on aime avoir sur des livres de contes. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais cette image-là aussi d'histoire de contes qui allait être un petit peu changée, parce que les couvertures faisaient vraiment livre de contes ordinaire, quoi.
Alors bon, vous allez commencer à me lyncher, je pense que les auditeurs aussi, mais moi j'aime pas du tout.
Tu as des goûts de merde.
Voilà. On n'est pas sur un certain site, hein, donc on a chacun le droit d'avoir son opinion. Non, j'aime vraiment pas du tout. Le côté vaporeux, le côté proche de la photographie à moitié, là, enfin, je n'accroche vraiment pas du tout, du tout, du tout. Mais vraiment pas du tout. Enfin, je crois que vous avez compris, quoi.
Moi, je trouve ça fait.
Tu dois être une des rares seules, quand même.
Ben ouais. Ouais,
mais ça arrive.
Ouais. Non, moi, je trouve et que ça fait penser à des bouquins pour enfants. Et c'est.
Oh non, pas du tout. Ah non, et je sais pas, je crois que ça doit rajouter à ce côté malsain, justement, le fait que tu vois un truc qui est à moitié photographié, à moitié tout blur, là, comme ça, et. Qui correspond pas avec ce qu'on a ensuite à l'intérieur, parce que c'est pas du tout du dessin.
Bah justement, oui.
Quoi. Et j'aime, enfin, je sais pas, ça donne une impression. Enfin, ça va. Moi, j'aime pas du tout. Vraiment, ça va pas avec. Et je trouve que ça rend justement encore plus malsain le côté fable.
Ah, ouais, enfin, bon, t'as le droit, hein, mais enfin, je sais pas. Mais l'avantage en plus de James Dean, c'est qu'il est capable de modifier son style en fonction de l'histoire, voilà. Par exemple, si tu prends les deux couvertures qu'il a faites pour la petite histoire en deux parties sur Bigby pendant la guerre, elles n'ont pas du tout le même style que celles qu'il fait sur les gros arcs qui font avancer l'histoire.
Ah mais je reconnais le talent du gars, hein, là, il n'y a pas de souci, hein, mais je trouve que ça ne va pas avec cette série.
Et rien qu'avec
Ça.
chaque couverture, tu peux arriver, juste en regardant la couverture, tu peux déjà un peu déterminer l'ambiance que tu vas avoir dans chaque épisode.
Mais j'ai bien compris, mais
Mais
il
je crois
n'empêche
que
que j'accroche vraiment pas.
le malentendu vient du fait qu'aujourd'hui on considère que toutes les histoires de contes, tout ça, en fait, c'est des histoires pour enfants. Alors quand ça a été écrit au XVIIe ou XVIIIe siècle, c'était pas du tout pour les enfants,
Mais
c'était pour les
ça,
vieux.
enfin, je le
C'est
sais bien.
vraiment un truc
Si tu veux.
folklorique, c'était en fait des histoires d'horreur de l'époque et
Ah
Mais ça,
oui.
je le sais bien,
Voilà.
justement. Enfin, je veux dire, je suis maîtresse d'école, donc les contes, ça me connaît, quoi. J'en fais avec mes élèves. Et je sais justement à quoi ça sert et tout. Je sais qu'à la base, c'est justement des trucs assez. Des récits initiatiques un peu, des trucs assez gore
Voilà.
pour que les gamins, justement, ne fassent pas de conneries par la suite et aient peur des contes. Mais. Je sais pas, non, ça va. Enfin, j'ai l'impression là, en disant tout ça, que finalement, on dirait que j'ai pas aimé Fable, que je trouve ça malsain et tout, alors que pas du tout, hein, j'ai vraiment bien bien accroché, mais c'est vrai que y a un côté malsain dans Fable, il est vraiment présent, et je trouve que peut-être les couvertures avec cette ambiance toute foggy là, avec un peu vaporeuse et tout, je trouve que ça aide pas justement pour se sentir à l'aise.
Mais de toute façon, les contes, c'est comme les cartoons. On dit toujours que c'est pour enfants, mais quand tu regardes ne serait-ce qu'un cartoon, pour moi, le pire, c'est par exemple Bibi et le Coyote. C'est quand même sacrément horrible. On dit que c'est pour les enfants, mais c'est horrible. On passe notre temps à rigoler devant un pauvre coyote qui se fait, mais exploser et qui meurt 8 fois par épisode. Et c'est terrible. Et on dit que c'est pour les enfants, mais c'est toutes des morts les plus atroces les unes que les autres. Et pareil, enfin, je veux dire, le petit chaperon rouge, le loup quand même bouffe la grand-mère. Puis après, un bûcheron vient et lui ouvre le ventre.
Ouais, non, mais de toute
Ben
façon, il est clair
c'est
que
quand même
les
super
fables,
crade, quoi.
les fables, c'est super effrayant. Quand t'es petit, on te raconte le petit poucet, par exemple, avec les ogres et tout, là, ou Barbe Bleue avec les cadavres de toutes ses ex dans son placard. Il suffit que tu veux que tu mates un livre de contes et enfin, t'as des images quand même, tu vois, généralement qui sont peintes justement comme sur les couvertures de fables. C'est super flippant. Moi, je sais que quand j'étais petit, ça me faisait flipper ça. Et donc là, je pense que c'est totalement assumé d'ailleurs, ce côté pas du tout pour les enfants, justement.
Ah oui, ça.
Ah
Truc,
oui, mais ça c'est certain.
de toute façon, tu peux pas vraiment l'aborder avant d'avoir, je sais pas, 15-16 ans, quoi, je pense, cette
Bah,
série.
il faut une certaine maturité, puis il faut une
Voilà,
certaine
oui.
connaissance des contes aussi, un minimum, pour pouvoir encore plus apprécier la série.
Oui. Et puis peut-être détacher un peu de la vision Disney des contes. Ouais.
C'est
Oui,
vraiment
voilà.
le passage à l'âge adulte, quoi, j'ai envie de dire. Faut lire ça à ce moment-là, parce que.
On va peut-être revenir un peu sur l'histoire, et notamment le fait du pourquoi certains sont à New York. Parce qu'on n'a pas parlé du pourquoi ils sont à New York, en tout cas dans notre monde, et on n'a pas parlé non plus de l'adversaire. Donc bah
Gros
Sam,
épouvantail de la série.
vas-y,
En
je
fait,
t'en prie.
quand on commence la série, on n'a pas trop d'indices sur qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils font à New York,
Alors on sait
comment ils relient tout ça. Et on commence en fait au fur et à mesure d'avoir on a des indices, même un petit récapitulatif, il me semble, vraiment, de pourquoi on est là, pourquoi
Ouais,
ils
on
sont
apprend juste
là,
qu'ils sont en
mais
exil, quoi.
voilà, ils sont en exil, mais sans gros de détails. On sait qu'en fait ils ont été tous chassés des royaumes des contes par un truc qui s'appelle l'adversaire. On n'a pas plus d'idées sur qui c'est, qu'est-ce qu'il fait. On sait juste qu'il conquiert un peu tout, en fait tous les royaumes, et qu'il a commencé par les royaumes d'Europe, des contes d'Europe. Bon, mais à part ça, on n'a pas plus d'indices que ça. Et c'est vrai que le premier arc, comme il est vraiment ancré, je dirais, dans la vie quotidienne des fables, on n'entre pas trop dans le sujet. Et c'est vraiment à partir du moment où je dirais la bataille contre l'adversaire commence vraiment à se mettre en place, que là on commence vraiment à avoir du background des différents personnages.
Ben,
Mais
je pense que ça
je sais pas
commence dès
si.
la ferme, en fait. Puisque si Boucle d'Or veut reprendre les armes, c'est aussi pour pouvoir essayer de récupérer les terres qu'ils ont perdues et vraiment lancer cette guerre contre les royaumes. J'ai du mal avec l'appellation française que je
Ouais.
disais en anglais. Voilà. Mais c'est vraiment ça qu'elle veut faire, puisqu'elle trouve que ceux qui dirigent Fable Town, enfin Fableville, sont trop inactifs par rapport au fait qu'ils aient été éjectés de leur royaume au final.
Oui, parce qu'il faut dire aussi que ça fait des siècles qu'ils sont là. Donc ça fait des siècles qu'ils attendent de reprendre aussi enfin leur royaume. C'est pas comme si ça faisait genre 400 ans, 500 ans. Ça fait vraiment plusieurs millénaires qui sont là.
Puis même dans le premier arc, on comprend vraiment que même la structure, je dirais, administrative de Fableville ne survit vraiment que par la générosité des différents membres. Et que, voilà, en gros, le personnel administratif, c'est le roi, Blanche-Neige, Gobe-Mouche et Gobe, et c'est tout. Son droit.
Mais je sais pas si vous avez eu cette impression au début. Je sais pas si vous avez eu cette impression au début, mais moi, j'avais même pas saisi directement que Fableville, c'était un quartier de New York, en fait. Enfin, que c'était un endroit dans New York où ils s'étaient rassemblés. Je pensais que c'était genre une espèce de ville.
Moi, dans le jeu, c'est pareil.
Ah, moi, je pensais que c'était une ville, mais une ville souterraine. Tu vois, je pensais que c'était sous New York, que c'était pas au grand jour comme ça, en fait.
Moi, j'ai pas du tout ce problème de compréhension. Dès le début, j'ai compris que c'était un quartier de New York, en fait.
Bah oui, parce qu'on le voit, en fait, parce que je crois que les premières pages, c'est, en fait, Jack qui parcourt tout New York pour atteindre l'immeuble central de Fableville, et on voit bien que c'est dans New York.
Ouais, mais en fait, moi j'imaginais que genre Fableville, ça ressemblait, enfin c'était représenté par Willingham comme New York, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Ah oui, d'accord.
C'était une espèce de ville qui ressemblait à New York, mais qui s'appelait Fableville. Oui, voilà, parce que dans mon esprit, tu vois, Fableville, c'était un monde, enfin c'était une ville dans un monde où il y a que des fables, justement. Au début, je savais pas qu'il y avait les humains d'un côté, les fables de l'autre, puisqu'au fait, on les appelle les fables, hein, comme on appelle les mutants.
Les humains, c'est les communs.
Ils sont appelés comment, les humains, en français?
Les communs.
Les communs. D'accord.
Ouais, en anglais, c'est les mondains, en fait, qui les appellent.
C'est les connards, en anglais.
Il y a un côté très Harry Potter, d'ailleurs.
Ouais, carrément.
Entre, justement, les fables et les humains. Je sais pas si vous avez pas eu cette impression?
Pas trop, non, parce que personnellement, j'ai pas lu Harry Potter et j'évite de regarder les films quand ils passent, donc.
D'accord.
Oui, voilà. Moi, Harry Potter, je pars du principe qu'il faut le brûler. Et l'enterrer très profondément sous la terre, voilà.
C'est même par rapport au mot choisi, en fait, parce que c'est Muddle et puis en Harry Potter c'est Mugrat ou je sais plus quoi. C'est quoi Harry Potter déjà?
J'ai le moldu.
Voilà.
Ouais, non, mais en anglais.
Ouais, c'est quelque chose comme
ça. Voilà, en anglais, les deux mots sont assez proches, en fait. Ouais, donc c'est pour ça que ça nous a fait penser à Harry Potter.
Les mundane, là, en anglais pour fable.
Donc, enfin voilà.
Mais moi, j'ai commencé vraiment à apprécier justement la série à partir du moment où, après le second arc, on a eu quelques épisodes centrés sur tel ou tel personnage. Tu vois, un épisode qui était centré sur... alors, je sais plus, c'était
Jack, pendant la guerre des successions.
Voilà, exactement. Ouais, je crois que c'était le premier après le second arc. Et j'avais trouvé cet épisode excellent, quoi. Vraiment super drôle. Voilà.
Ce que Willingham sait faire, c'est diverger de sa série. En tout cas de sa trame principale pour nous raconter justement des petits contes sur certaines personnes ou sur certains événements passés. Et finalement, même si on a envie que l'histoire avance, on a aussi envie de lire ces histoires qui sont à part, parce qu'elles sont super intéressantes.
Bah, elles nous révèlent pas mal de... Enfin, en fait, du passé de tous les personnages qu'il y a dans la série. Donc c'est vrai que, en fait, quand on revient à l'intrigue principale, on voit les personnages avec un nouvel œil.
Oui, complètement.
Mais c'est vrai que, alors c'est peut-être parce que je suis pas encore assez habituée aux comics ou que j'ai une nature assez impatiente comme ça, mais à chaque fois que je commence à lire une petite histoire comme ça entre les arcs, je me dis, oh non, putain, merde, je voulais savoir la suite, moi, pourquoi il me fait encore un truc là?
Ouais, et, mais alors, bon,
si tu veux, je le lis. Non, mais j'apprécie en plus hein, l'histoire, non, mais... je l'apprécie, je la lis et tout. Mais je comprends que le mec le mette là justement pour un peu freiner et dire prends ton temps, mollo, tu vas plus apprécier encore quand ça va venir après. Mais bon, c'est...
Mais ça n'a rien à voir avec les comics, c'est pas du tout propre aux comics. Tu regardes n'importe quelle série télé, t'as 36 000 séries télé où d'un seul coup, on te fait un épisode centré sur tel perso et tu te dis, oh non, pourquoi l'intrigue principale, elle avance pas? Pourquoi est-ce
qu'on... Mais dans les comics, c'est quand même super souvent qu'ils font ça. Enfin, moi, tout ce que j'ai eu à lire jusqu'à présent, t'es dans ton truc, là, t'as envie de savoir la suite, et là, on te fait interlude, petit machin, et tu te dis, mais non, pourquoi tu me fais ça?
Bah, dans Lost, par exemple, t'as des saisons entières où c'est que ça, quoi. T'as l'intrigue principale.
C'est pour ça qu'on genre, a lâché.
Tel ou tel épisode sur le cuisinier du bateau, tu sais, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, j'en ai rien à foutre.
Mais là, par exemple,
c'est une pièce ultra importante de tout le récit.
Là, pour être honnête avec vous, si j'avais pas eu à faire le podcast, les épisodes qui sortaient de la trame, je me serais dit, ok, ça, je me lirai tout ça plus tard, moi, ce que je veux...
Oh, sacrilège. Oh, sacrilège.
Et j'aurais fait mes histoires, mes arcs comme ça, quoi.
Une série est construite d'une certaine manière, il faut la lire dans l'ordre, c'est normal.
Mais c'était déjà ça avec Sandman, hein. Quand j'avais les petites histoires, je me dis mais je m'en fous de ça, je passe à la suite.
Non mais en plus, tu perdrais des pièces importantes, des puzzles et des intrigues mises en place par Willingham, donc.
Bien sûr.
Bah, par exemple, les deux épisodes, je crois qu'il y en avait deux sur qui présentent Cendrillon, qui sont absolument excellents, qui est franchement l'une des réinterprétations de personnages dans Fable, qui est quand même l'une des plus inattendues. Hein. Voilà.
Oui, c'est vrai.
Parce que grosso modo, c'est l'espionne suprême, quoi. Voilà. Mais elle est géniale, quoi. c'est incroyable.
Mais il y a plein
en
de
fait,
petites.
On se rend compte que en fait, l'histoire, si on l'avait pas eu, on perdait une pièce, je pense, dans l'arc suivant, qui était, je crois, c'est la bataille des soldats de bois.
Ouais.
On voit justement que, en fait, Cendrillon ramène des impôts. On dit attention, ça va jouer.
Oui, puis on n'aurait pas compris pourquoi elle le faisait, quoi.
Voilà. Pourquoi elle ramène des infos? Qui c'est celle-là?
En même temps, dans le monde des comics, c'est souvent que je me dis qui c'est celui-là, pourquoi il fait ça, quel est son rôle. Donc, si tu veux remplir les blancs comme ça, je suis habituée.
Oui, mais là, enfin, je veux dire, Fable est une série autocontenue. Il y a pas de trucs qui sortent ailleurs. Enfin, si, on y viendra tout à l'heure.
Ouais.
C'est pas un monde partagé comme le monde DC ou le monde Marvel.
Non, bien sûr, je vois ce que vous voulez dire.
En tout cas, j'allais dire, y a un arc où on voit très bien la différence entre le monde des fables et le monde des humains ou des communs. C'est celui où il y a justement un journaliste qui fait une enquête au fait sur les personnages des fables et qui pense qu'il s'agit au fait d'une communauté de vampires. J'ai trouvé aussi cet arc excellent, quoi, super drôle. Il y a plein de petits épisodes comme ça au début qui ne font pas avancer la trame de l'histoire puisqu'on parle pas du tout de l'adversaire, etc. Mais c'est plein de petits épisodes qui, en fait, te présentent bien le monde des fables, son fonctionnement, etc. Et c'est vraiment des épisodes super drôles où t'en apprends bien bien plus sur les personnages principaux. Et limite, il aurait dû commencer par là, je pense, sa série, plutôt que de nous balancer deux gros arcs qui sont pas forcément le meilleur, quoi, et qui sont un petit peu difficiles pour rentrer dedans.
Ah, je sais pas, parce que on n'aurait pas eu. On n'aurait peut-être pas eu ce sentiment que le mec se plante à ce point-là. On aurait pu croire justement que c'était peut-être des vampires ou des trucs comme ça, s'il avait commencé par là. Là, on sait que le mec se gaufre totalement, puisqu'on a déjà lu 11 épisodes sur Fable avant d'attaquer cette histoire en deux parties. Et on commence à connaître les personnages, on sait qui ils sont, on sait quels sont leurs problèmes, pourquoi ils se cachent du monde, etc. Et le fait de voir ce journaliste débarquer et les traquer... en pensant que ce sont des vampires, c'est d'autant plus drôle parce qu'on connaît les personnages.
Voilà. Le style, par exemple, à un moment, je crois que, en fait, il l'assomme et quand il se réveille, il lui montre des photos où, en fait, il touche Pinocchio. Attention. Voilà, on va révéler ça, donc, vous avez des goûts de des enfants, sur d'autres trucs. Donc,
c'est ça que j'ai bien aimé dans cet arc-là, en fait, c'est le fait que on utilise les... attention à ce que vous allez dire. Hein. C'est le fait qu'on utilise les propriétés de chaque fable, comme avec la Belle au bois dormant, quand elle explique qu'elle endort tout le monde autour, et du coup, ils l'apprennent pour faire leur opération commando. Enfin, j'ai trouvé ça assez sympa, en fait, qu'ils utilisent vraiment leurs propres armes, finalement, dans le monde des humains pour arriver à leur fin.
Exactement. Moi, c'est là, à partir de là, que je suis rentré complètement dans la série, parce que enfin, on voyait les capacités de tous les personnages.
Exactement. Moi, c'est ça que j'attendais.
Je les ai vraiment connus à partir de là. Avant, c'était un petit peu obscur, quoi. Je me disais, attends, lui, qu'est-ce qu'il fait exactement? Pourquoi il agit comme ça? Et à partir de là, vraiment, c'était très clair. C'est comme l'épisode centré sur Jack juste avant. Voilà. Maintenant, Jack, je sais qui c'est, je sais où il va, je sais quel est son but, et puis voilà.
Donc, c'est vraiment, déjà que c'était un gros loser.
Le mec qui monte des opérations pour escroquer tout le monde et qui se gaufre à chaque fois.
Ouais, mais néanmoins...
Au moment où la bulle internet se casse la gueule,
il a toujours la bonne idée, mais au mauvais moment, en fait.
Voilà.
Néanmoins,
genre un an plus tard...
Néanmoins, c'est ce type d'épisode, tu vois, qui m'ont fait apprécier les personnages et qui m'ont vraiment fait rentrer dans la série, quoi. Alors que les 10 premiers, j'étais un petit peu... j'étais pas spécialement convaincu.
Ce mini-arc a aussi comme capacité de nous montrer vraiment trois personnages distincts dans la série. Les trois personnages mâles alpha, si on peut dire ça comme ça, avec vraiment la façon de penser de Big V Wolf, la façon de penser de Bluebird, et la façon
barbe
de penser... Oui, voilà, Barbe Bleue, merci. Et la façon de penser du Prince Charmant. Et on voit qu'ils ont chacun... ils ont le même but, mais pas forcément les mêmes moyens pour y arriver, et on voit vraiment qui est un pourri, qui est à la limite, qui est vraiment le bon dans l'histoire. Et ça, c'est très fort. Ça laisse un blanc, c'est terrible.
Et ça, c'est vraiment très très
non,
fort.
Non, mais c'est vrai, ça permet de mieux voir les personnages et de voir comment ils arrivent à leur fin, effectivement.
On a ensuite, après ce double épisode, enfin, cette succession de deux épisodes, en fait, on a l'arc, alors ça s'appelle en anglais Storybook Love, je ne sais absolument pas quelle traduction il a en français, et m'en fous. où justement Big B Wolf et Snow White sont perdus dans les bois, prêts à être tués par Boucle d'Or, justement.
Ouais.
Et là, on a
moi, c'est vraiment là que j'ai commencé à vraiment accrocher à la série. J'aimais déjà bien avant, mais là, dès que j'ai vu en fait Big B sous sa vraie forme.
Ah, mais le personnage de Big B est terrible. C'est vraiment le personnage que je préfère dans la série.
Ah, mais oui, énorme.
Moi, j'ai beaucoup aimé aussi cette partie-là, et d'ailleurs, ça me fait penser que c'est vraiment une série où les personnages agissent un petit peu comme dans... Tu vois, c'est pas du tout le même thème, mais ça me fait penser un petit peu à X-Factor, quoi, par Peter David.
Et pourquoi? Pourquoi, en fait, ça t'y fait penser?
Ah, pourquoi? Bah, parce que y a des intrigues un petit peu, tu vois, enfin, je sais pas, des intrigues pas complètement délirantes, mais quand même, quoi, tu vois, un petit peu
dramatique,
ouais, mais aussi
limite
délirante, limite kitsch, tu vois, entre certains protagonistes de l'histoire qui c'est pas une comédie, quoi, tu vois, ça fait pas marrer non plus de lire Fable, mais c'est un petit peu comme X-Factor, t'as vraiment des moments qui sont involontairement drôles, quoi, et des aventures là en l'occurrence ils se font poursuivre, ils sont menacés de mort, mais c'est quand même très drôle, cet arc-là.
Puis, cet arc a des grosses répercussions ensuite sur, sur tout, en fait.
Cette grosse répercussion.
Puisque c'est quand même un rapprochement entre deux personnages qui, par la suite, change tout, en fait.
Ouais. Mais ils se tournaient autour depuis un moment, quand même.
Ouais.
Et c'est vrai que Big B.
C'est vrai quand tu les vois ensemble, tu te dis, je pensais qu'il ferait durer ça plus longtemps.
Ouais, et puis finalement, il lance directement le truc et...
C'est peut-être pas plus mal, finalement. Ça évite d'attendre quelque chose qui, on sait, qui arrivera tôt ou tard, mais là, au moins, on a la réponse.
Puis je trouve que c'est un arc, je trouve, qui permet vraiment de mieux connaître Blanche.
Oui.
Puisque, en fait, à un moment, Bibi lui dit que, en fait, grâce à son odorat, il peut la repérer à peu près partout, il peut savoir dans quel état d'esprit elle est... il révèle des trucs sur elle. Par exemple, qu'elle est jalouse. Qu'elle est jalouse de la Belle et la Bête, par exemple.
C'est quand même assez bizarre, quand tu te dis, c'est un gros pervers qui la suit, quand même. C'est d'ailleurs, c'est la réaction qu'elle a. Hein.
Ouais. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est
le fait qu'il fume comme un pompier, parce que sinon, ça. Mais l'environnement de la ville le rendrait cinglé.
Bibi m'a vraiment fait penser en plus à John Constantine, le côté détective qui en plus fume clope sur clope, sur des trucs qui sont assez souvent magiques. C'est vraiment le même type de personnage, je trouve.
Moi, il m'a fait penser à Wolverine, tout simplement.
Oui, moi aussi.
Surtout pour le côté régénération, tu vois.
Auto-guérison, etc.
Eh bien, moi, en tant que femme, à quoi m'a fait penser Bibi? Non, moi, honnêtement, moi, j'ai trouvé, quand il s'est transformé en loup et quand il explique tout ça à Blanche, le fait qu'il la sent, que c'est parce que, voilà, et en gros, elle est destinée à lui ou ce genre de choses. Moi, tu vois, j'ai eu le côté romantique en me disant, c'est trop mignon et tout.
Je crois que c'est la plus belle déclaration d'amour qu'on puisse faire.
Franchement, je me suis dit, j'aimerais trop avoir un Big B comme ça, quoi.
Bah, tu l'as avec Steve, voilà, c'est ce que je te dis. Steve, c'est Bibi Wolf.
Quand même.
Hein. Donc, non,
un peu de respect, s'il te plaît.
Moi j'ai bien aimé. Enfin, vraiment, ce couple-là, je l'aime bien. Et c'est vrai, peut-être pour ça, je me suis identifiée. Je sais pas. Enfin, moi, je trouve que voilà, c'est un homme qu'on aimerait avoir, quoi.
Vas-y, rajoute dans une deuxième couche. Ça fait toujours plaisir.
Bon, je voulais qu'on vous laisse seul pour discuter.
Allez, caresse Steve dans le sens du poil.
C'est pour un loup, c'est très bien. Ouais.
Bah oui, c'est pour ça que je dis ça. Bien entendu, il n'y avait pas de. Alors, il n'y avait pas de du tout de sous-entendu, enfin.
On ne se permettrait pas.
Bah non.
C'est pas notre style.
Non. Surtout que c'est pour tout le monde.
Voilà.
Nous ne contrôlons plus rien, en fait.
Voilà. Non, mais au fait, Fable, de toute façon, c'est pas vraiment pour les... Hein, de toute façon, on l'a compris, c'est pas vraiment pour les enfants.
C'est pas pour les enfants.
Non. Ah non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il y a quand même quelques scènes qui sont vraiment hard visuellement.
Ah ben, quand Blanche se débarrasse de boucle d'or...
Par exemple, oui, puis même dès le premier arc, hein, le sang partout dans l'appartement de Rose Red, c'est quand même assez crade, quoi.
Ou l'un des trois petits cochons qui se fait décapiter.
C'est, ouais, c'est une scène que j'ai trouvée horrible. Horrible. Vraiment, elle m'est passée partout et...
Bah, c'est ça, la peine pour bien régulièrement pour voir Blanche. Donc.
Bah, on le voyait dans le premier arc, le petit cochon qui s'échappe de la ferme. Enfin, on avait envie qu'il reste, enfin, moi en tout cas, j'avais envie qu'il reste à Fabletown. Et là, je sais pas, il est renvoyé, puis après, il se fait décapiter. Enfin, je trouve ça horrible, quoi.
Oui, mais c'est le côté malsain dont je parlais tout à l'heure. J'avais vraiment l'image en tête de la tête du cochon sur le pic, là. Et ouais, mais c'est ça. C'est vraiment le côté malsain qu'il y a à Fable. C'est des dessins un petit peu enchanteurs, un petit peu enfantins. Et puis, à côté de ça, une violence extrême.
Tu le prends vraiment... Enfin, ouais, c'est vraiment...
Pour moi, la véritable violence commence avec l'arc d'après, justement.
Avec les soldats de
la guerre, en fait, ouais. Ouais. La guerre est quand même vraiment, vraiment violente.
Ouais. La fameuse marche des soldats de bois.
Ouais. Voilà.
Qui est quand même le plus gros arc, d'ailleurs, depuis le début.
Bah, c'est le plus long, oui, c'est plus long, ça c'est sûr. Je crois qu'il y a en 7 ou 8 parties, donc...
Épisode 19 à 21 et 23 à 27.
Voilà. Ouais.
Parce que bien s'intercaler, vient s'intercaler au milieu de l'épisode sur Cinderella, enfin sur son rayon.
Et celui sur... attends, celui, je crois, où ils expliquent... tu sais que Boy Blue explique sa rencontre avec...
Le petit chaperon rouge. Oui. Je crois qu'il est après celui-là. Ah non, il est avant, Oui, c'est un spécial.
Ah non, nous, on l'a pas eu, ça.
Oui, c'est que tu ne l'as pas lu, c'est The Last Castle.
Mm. Ah non, ah, j'ai pas eu ça.
C'était un one-shot.
Ah, je l'avais pas lu, ça. Ah d'accord, parce qu'il était excellent, ce truc-là.
Ah oui, il est très bon. En fait, c'était l'une des dernières places fortes des fables pour qui protégeait en fait l'un des quasiment le dernier passage vers la Terre des Communs. Et en fait, un jour se présente le petit chaperon rouge, et après t'as l'armée de l'adversaire qui se pointe. Bon, il y a une pole grosse baston. Entre temps, en fait, Boy Blue et le petit chaperon rouge sont envoyés en l'air, carrément. Ouais, ils sont tombés amoureux.
Je l'avais compris.
Voilà, ils sont tombés amoureux, et en fait, à la fin, Boy Blue arrive à sauver sa vie. Mais, en fait, le petit chaperon rouge disparaît en croyant que Boy Blue est mort.
D'accord.
Ça finit un peu sur Boy Blue qui est vraiment un personnage plus sombre, en fait.
C'est tragique, puisqu'il pense que le petit chaperon rouge est mort et qu'en plus, voilà quoi, elle l'aimait, et puis donc
il regrette ça. Ça. Hein. Il pense voilà, que c'est ouais. ça, surtout.
Ouais, enfin, c'est l'histoire de... Parce que ça, même sans lire ce one-shot, on le sait à travers Fable, donc c'est juste qu'on vous met l'histoire vraiment, quoi.
Oui,
parce
que ça j'avais bien vraiment.
Et j'avais... Mais après, de toute façon, quand tu lis l'arc d'après, tu comprends que Boy Blue est beaucoup plus sombre qu'il n'y paraît, de toute façon. Donc,
Mais il est vraiment excellent,
en tout cas. La gueule, quand même, là.
Mais je l'aime bien, moi, ce personnage de Boy Blue, justement. Mm. Je trouve qu'il est vraiment intéressant, surtout qu'en plus, c'est un personnage que, dans les fables, on ne connaît pas. Donc, j'ai vraiment trouvé... intéressant la manière dont il évolue ou dont on nous l'a présenté au début et finalement qu'est-ce qu'il devient un peu un Zorro là c'est comme ça que j'ai vu hein, moi donc dans sa cape et dans son masque
bah c'est vrai que dans l'arc les royaumes traversent quasiment tous les royaumes il vint chevalier sur chevalier un dragon enfin vraiment il va jusqu'au bout du bout hein, quand même et puis il est pas con en plus hein.
Non ouais.
Ah non on voit ouais,
tout là
Ouais, non, c'est clair.
Et bah donc après ce one shot justement que tout le monde n'a pas lu mais qui est excellent, il y a la marche des soldats de bois.
Voilà.
Et la marche des soldats de bois, c'est vraiment la première grosse bataille contre les forces de l'adversaire en fait.
Avec le retour du chaperon rouge justement.
Justement, ouais. C'est pour ça qu'il faut absolument lire ce one shot avant. D'une part parce qu'il est excellent comme je le disais, et puis d'autre part parce que ça met bien les choses à plat.
Ouais, mais pour tu la vois, bataille. Ne l'ayant pas lu, les récaps qui sont faits durant tout cet arc, je trouve suffisent. à comprendre l'histoire et à comprendre l'attachement que Boy Blue a au petit chaperon rouge.
Ah oui, ça c'est clair dans la série, mais je dirais que ça apporte quand même.
Ah bah oui, bien sûr, c'est un moyen d'avoir un peu plus, quoi, et de s'attacher à ce personnage.
Les dialogues et la bataille et tout, enfin franchement, j'avais adoré cette histoire-là. Et je pensais que c'était un arc à la base. Je l'avais pas vu puisque je les ai lus en français, donc je savais pas que c'était un numéro en plus, quoi.
C'est un one shot.
Ah si, non, je crois que c'était clair dans l'édition française, c'est un one shot.
Bon, enfin, j'ai oublié, quoi, numéro temps.
Pendant cet arc de bataille, il y a un truc qui m'a frappé, c'est que il réutilise un petit peu des idées de la pop culture, on va dire aujourd'hui classique, notamment le coup des soldats, enfin c'est ni plus ni moins que l'agent Smith de Matrix.
Ouais, effectivement. Ouais.
Toute cette marche, enfin voilà, ils sont tous pareils, le même costume noir, ils se multiplient presque à l'infini. Enfin voilà, ils se reconstruisent avec différentes parties, c'est vraiment ça. Moi, ça m'a vraiment fait penser à ça.
Oui, ils ont le même but. Hein.
Oui, en plus. Oui.
Ils ont exactement le même but, qui est de contrôler, d'uniformiser, au fait, tout le monde, quoi. D'où la tête qu'ils ont, d'ailleurs. Ils sont tous pareils, au fait.
Ouais. Ben, moi, dans le même style un peu de pop culture, enfin, quand j'ai vu l'Empereur, enfin, moi, j'ai vu Arthas de Wo, quoi. Enfin, vraiment, non, mais franchement, c'était Arthas, quoi.
Ah, je connais pas.
Ben ouais,
plus,
mais
Joker, quoi,
ouais, ben ouais, mais bon, j'espère qu'il y a des auditeurs qui connaissent. Non, franchement, c'était vraiment ça, quoi. Le casque, l'épée, grand comme ça sur son trône. Enfin, bon, c'est peut-être aussi parce que j'ai joué à WoW très longtemps, mais pour moi, enfin, c'est clair que j'ai vu Arthas tout de suite, quoi.
En même temps, il a la tête d'un grand chevalier, comme n'importe quel grand chevalier, quoi, avec les
cornes. Ah ouais, mais non.
Tu connaîtrais Arthas, tu comprends.
Tu voilà, tu verrais Arthas, tu te dirais, mais c'est lui. En fait, c'est lui le gros méchant.
Ce qui est vrai en plus. Bon.
Il y a quand même une petite polémique quand même sur l'identité réelle de l'adversaire. Moi, m'a laissé un peu.
Bah, on s'attend pas à qui c'est en fait. Enfin, ça.
Si
paraît,
on s'attend.
Ça... Oui, enfin.
On s'y attend.
Non, mais je veux dire, ça paraît absurde que ce soit ce personnage-là.
Ouais. Mais surtout, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est l'épisode en fait où il explique comment il en est venu là. Moi, le tout début, ça m'a pas vraiment plu.
C'est un épisode que je n'ai pas lu. Encore.
Alors je sais pas si on peut dire qui est l'identité réelle de l'adversaire.
Oh non, on va éviter plutôt.
Ouais. On va vous laisser la surprise. Ouais.
Ah ouais. Donc en fait, je dirais rien, mais dans l'épisode en fait qui aborde le sujet, disons que le mec devient, je dirais quasiment meilleur en une page. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de subtilité dans le chemin.
Non, moi, je trouve que c'est quand même amené... Enfin, on comprend que tu vois que c'est à force de... que finalement, l'engrenage était... Il s'est mis dans l'engrenage et que c'est comme ça que, à vide de pouvoir... Enfin, non, moi, j'ai pas senti que c'était genre du jour au lendemain, hop, j'ai changé de bord, je suis méchant.
Moi, ça m'a laissé cette impression-là. Hein. C'était un peu comme ça, un peu... Tout d'un coup, il réveille une ambition pour pouvoir qu'il n'avait pas du tout.
Denis, t'en as pensé quoi?
Moi, c'est le dernier arc que j'ai lu, quasiment, enfin en entier en tout cas. Et moi, ça m'a pas choqué plus que ça. Puis, comme j'avais pas du tout réfléchi à la question, l'identité même de l'adversaire m'a surprise quand même. Même si, au fait, on peut tout à fait le déduire.
On peut le savoir exactement à l'épisode 24.
Voilà. Oui. Voilà, on peut s'en douter déjà à l'épisode 24. Et puis, même tout l'arc dont on vient de parler avec la grosse bataille, c'est quand même assez.
Gros indices.
Oui. C'est quand même très clair, mais sans avoir réfléchi, vraiment en se laissant porter par l'histoire, sans réfléchir à ce qui pourrait se passer. Non, moi ça m'a surpris. Et puis ensuite l'explication, disons que voilà quoi, hein, dans les comics, j'ai lu plus miteux comme explication.
Ouais, donc tu admets quand même que c'est pas top. Hein.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus, je suis sorti de chez moi, j'ai glissé sur une crotte de chien, je me suis cogné la tête dans un mur et je me suis dit d'un seul coup que j'allais conquérir le monde et tuer tous les gens qui laissent chier leur chien dans le...
Non, mais parce que bon, ça rentrait dans le détail, grosso modo un jour un noble vient le voir. Lui dit, voilà, le seigneur local nous pose problème, est-ce que vous pourriez pas le remplacer, patati, patata. Et là, tout d'un coup, le mec répond, oui, mais le mieux, ça sera de le tuer.
Ouais, non, mais...
Voilà. Donc, moi, ça m'a un peu dérangé de le voir tout d'un coup.
Mais oui, mais faut se remettre dans le contexte des personnages de fable. Ils sont immortels, quoi, quasiment. Ça fait des années, des années, des années, des années qu'ils font les mêmes trucs. Mmh. Au bout d'un moment, il y a de quoi péter les plombs et...
D'ailleurs, je
Et
crois
du
que c'est
coup,
un point
de.
qu'on devrait, dont on devrait discuter, on n'a pas parlé, c'est qu'en fait, la survie même des personnages est liée à la croyance des communs. Voilà. C'est-à-dire que plus le personnage est célèbre, plus le personnage, voilà, l'histoire est racontée, plus en fait, il est difficile à tuer.
Comme des dieux, en fait, qui tirent le
Voilà.
pouvoir des gens qui croient en eux, tout simplement.
Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, Boucle d'Or, en fait, on va le dire, pour ceux qui ont parlé de Jacob Femme, en fait, elle s'en tire, c'est assez hallucinant, mais elle survit. Voilà, une image
Je
dans
m'en
la tête,
doutais.
renversée, noyée, ben elle survit
Ouais,
quand
je m'en doutais franchement qu'elle devait s'en sortir.
Voilà.
Mais oui, y a ce côté-là, un petit peu demi-dieu, enfin même dieu totalement des fables, des croyances et tout. Mais moi, voilà, ce qui m'étonne aussi, c'est que je me demande si on verra, parce que là, il y a toujours certains personnages super connus de fables ou de contes qu'on voit pas apparaître. Donc je me demande si Willingham utilisera vraiment tout le monde ou est-ce qu'il y en a
Ah bah
vraiment
il a
qui
du
laissera
temps,
totalement de
quand
côté?
même. Ben notamment, il commence à utiliser des fables autres que c'est les fables européennes dans les arcs qui suivent. Parce qu'il commence à introduire les personnages arabes. Donc déjà, c'est. On voit qu'il étend son champ de recherche et il étend le nombre de personnages.
Ben, ça doit être difficile, je pense, d'étendre vraiment très vite. Parce que nous, déjà, on veut voir nos personnages principaux. Voilà, on veut voir Bigby, on veut voir Blanche et
Ben oui,
voilà, les
voilà.
autres personnages, c'est sympa et. Donc déjà garder un cast, je dirais, stable, tout en évitant de ramener 50 personnages par épisode, on garde
Ouais.
un bon équilibre.
Mais par exemple, là dernièrement, dans les derniers que j'ai lus, il y a d'un seul coup Bagheera, Mowgli, tu vois, des
Bah, non,
personnages
c'est déjà dans le deuxième.
On les voyait passer
Bagheera, ouais.
dans
Ah oui, c'est
Emerald
vrai.
Farm,
Ouais, bien la
l'arc.
faire.
Avec
C'est
Shere
vrai, c'est
Khan
vrai.
et tout.
Voilà.
Mais ouais, Mowgli qui revient. Enfin, oui, c'est. Je trouve que la manière dont est amené justement les personnages plus Moyen-Orient des fables à travers le lien avec Mowgli qui se balade un peu partout, qui voyage et tout, je trouve que c'est plutôt bien fait en fait. Et finalement, dans l'arc d'avant, on savait qu'il y avait d'autres royaumes puisque il veut conquérir ensuite les royaumes des fables africains, les royaumes des fables chinois. Enfin, on s'en doute finalement qu'il y en a d'autres. Après, peut-être qu'on savait pas forcément qu'ils arriveraient aussi rapidement. Enfin, moi, je m'y attendais pas honnêtement à ce qu'ils
Bah moi
arrivent
non
dans
plus
l'arc
parce que
d'après.
oui, parce que dans l'arc que tu évoques, en fait, l'adversaire dit effectivement qu'en fait, il a deux phases, une phase de conquête, une phase de consolidation, et qu'en gros, c'est des phases de 50 ans, donc.
Mais moi, tu vois, ce qui m'étonne dans cette série, même en général, c'est comment ça se fait que les humains ne s'aperçoivent pas, tu vois, qu'il se passe un truc énorme.
Parce que les
À cause des
sorcières
sorts.
jettent des sorts,
Voilà.
constamment.
Ouais,
Voilà,
ça, c'est expliqué un petit peu avec la marche. Et justement, tu vois qu'il y
ouais.
a un gars qui gobe pas le truc. Quoi, qui dit, attends, il y a eu un truc, un immeuble qui a explosé avec du feu et tout, et le gars, il donne trois explications différentes pour le même immeuble. Il doit y avoir un problème quelque part. Donc, et là, le gars, justement, moi, j'attends de voir, la suite pour voir si on va revenir sur ce gars, et on sent bien qu'il est parti sur cette enquête et que ça fait plusieurs mois, et je pense qu'on va
Ça
le
traîne un peu
revoir.
en longueur. Ça traîne un peu en longueur parce que là, dans le dernier tome qui est paru en France, je crois que c'est dans l'épisode 52, 53, en fait, il y a un interlude de quelques pages sur le personnage et qui fait rien. C'est-à-dire qu'il passe dans le quartier, il détaille ses théories, donc d'accord. C'est-à-dire que par exemple, il y a des personnages qui évoquent la ferme, et le mec croit qu'en fait, c'est un camp d'extermination pour les fables rebelles ou ce genre de trucs.
Ouais, d'accord.
Mais
Voilà.
il y a un rapport au temps dans cette série qui est quand même assez particulier.
C'est
Parce
exactement
que
ce que je voulais parler.
tu as
Aussi.
l'impression qu'il se passe pas longtemps pour les personnages, mais en même temps on te dit qu'il se passe longtemps. Le temps est vraiment bizarre, il n'est pas forcément très linéaire. On le voit aussi avec l'arc sur Jack, qui est un prélude à sa série. L'histoire dure 5 ans, en 2 épisodes. Puis après on revient dans les épisodes d'après sur ce qui s'est passé pendant ce laps de temps sur Jack. Mais voilà, les personnages n'avancent pas à la même vitesse et tout ne se passe pas en même temps.
Bah, ce qui m'a un peu dérangé comme indicateur de temps, quand même, c'était la grossesse de Blanche.
Oui.
Tout d'un coup, en quelques épisodes, se retrouver avec, on dirait, en scène de 7 ou 8 mois, et puis à la fin de l'arc, la marche des soldats de bois, ça y est, j'accouche. D'accord.
Ouais,
On
moi
nous dit qu'à un
aussi,
moment
j'ai
il s'est
trouvé que
passé
c'était
5 mois.
rapide.
On nous dit qu'à un moment il s'est passé 5 mois, mais en fait tu te rends compte qu'il s'est passé que 3 mois. Même déjà dans les dialogues des personnages, entre les dialogues et les petites bulles qui font narration, c'est pas toujours très constant, il y a des problèmes de temps. Alors est-ce que le temps pour les fables passe plus vite ou plus lentement que dans le monde normal? Parce que, par exemple, le journaliste, la première fois qu'on le rencontre, il dit que c'était quelque chose qui s'était passé il y a un an. Mais ça paraît bizarre qu'il ne s'est pas passé autant de temps, en fait, quand tu regardes.
Non, c'est pas possible, parce que quand il le dit, déjà, je crois qu'en fait, les enfants de Blanche sont déjà grands, donc là, ils ont 3-4 ans, donc il dit, il y a vraiment ce
Non, non, ils n'ont pas encore un an, en fait. La première fois qu'on le voit, ils n'ont pas encore un an. C'est dans l'arc de Mid-Seasons qu'on aperçoit, donc c'est-à-dire l'épisode 30 et 33. La toute première fois, on aperçoit, juste après cette guerre, justement. Mais c'est bizarre, il y a vraiment un rapport au temps particulier. Mais c'est comme les contes, de toute façon, c'est très intemporel. Donc, il y a un autre truc aussi dont on n'a pas parlé et que j'aimerais bien qu'on aborde, c'est le roi. Enfin, le maire de Fableville, qui s'appelle King Cole. C'est un personnage dont on n'a pas parlé et qui m'énerve. C'est un bon à rien.
Qui est un peu une figure, je dirais, honorifique, affable. Ça s'arrête un peu là. Et, en fait, son rôle est vraiment expliqué justement dans le graphic novel Mille et une nuits blanches, on comprend pourquoi il était élu. En fait.
C'est un peu le bon roi du royaume en place. Ouais. Voilà,
c'est vraiment bien. Donc,
Ouais, mais il sert vraiment à rien et il fait presque plus... figure du pauvre bouffon qui a peur de tout,
je sais vraiment... pas dans l'arc les nuits à Arabie.
Ouais, il montre son utilité, hein, c'est clair.
Voilà.
D'accord, ouais. Parce que moi c'est vrai que j'ai pas lu encore jusqu'au bout, mais il se prend une belle déculottée quand il y a des élections finalement.
Surtout à cause de la campagne, je dirais, pas mal démagogique du prince, notamment auprès des fables. Non humain.
Voilà.
Et d'ailleurs, on parlait de l'aspect magique, que Benny se demandait comment ça se fait, que les humains ne se rendent pas compte. On a dit il y a des sorts qui entourent Fableville. Et en fait, dès l'élection du prince, puisque lui, il va voir les sorciers, toute la bande magique, pour leur dire, bon, tous mes sorts magiques, quand est-ce que vous pouvez me les fournir? En fait, il leur explique déjà qu'ils sont maximum de la production, parce qu'il y a tous les sorts qui entoure Fable, tous les sorts qui entourent la ferme, donc le prix est vraiment là pour éviter qu'on s'en rende compte.
Moi c'est pas les. Justement, j'avais bien compris qu'il y avait des sorts qui entouraient Fableville et pour pas que les humains s'en rendent compte, mais moi c'est dans le monde entier. Enfin, je veux dire, dans le monde entier, il y a des sorcières et des sorciers qui, dans chaque endroit où il y a des fables, jettent des sorts pour que les humains aux alentours ne se rendent compte de rien.
Bah, sur les fables humains, c'est pas la peine. Ceux qui peuvent passer pour des humains, il n'y a pas de souci. Et pour les fables non humains, ils sont à la ferme.
D'ailleurs, je sais plus dans quel
Oui, mais dans les royaumes.
Dans quel arc, mais on voit justement que je sais plus, là il y a une sorte de groupe de rock ou je sais pas quoi dans un avion, et on voit justement qu'il y a des gens qui sont capables de sentir de la magie. Justement, on sait pas si c'est des humains qui sentent. C'est justement quand il y a la bataille avec les soldats de bois où ils sentent qu'il y a des forces magiques en présence, quoi. Et est-ce que ce sont des fables dont on ne connaît pas, qui sont vraiment mélangées aux humains, ou est-ce que ce sont des humains qui ont un pouvoir de perception de magie, quoi? Et est-ce que après ça va être développé plus tard?
Ça pourrait expliquer le journaliste et pourquoi il n'est pas tombé dans le panneau.
Bah oui, pourquoi pas.
Mais surtout, non, mais moi ce que je voulais savoir, c'était, tu vois, dans les royaumes et tout, quand Boy Blue va jusqu'au royaume et décapite des dragons, affronte des trolls, etc. Tout ça, ça se passe sur Terre, quoi. Tu vois, c'est...
Ah non, c'est des dimensions à part.
C'est des dimensions à part, moi je pense.
Ah, totalement à part.
Bah oui, parce qu'il y a des portails.
Ouais, mais est-ce qu'on en est sûr?
Bah oui, il y a des portails pour aller dans les royaumes.
D'accord.
Un portail au Canada.
Il y avait, en fait.
Ouais.
Mais ce sont des différents portails qui permettent de passer dans cette dimension des fables. C'est pour ça qu'ils se sont réfugiés dans le monde des humains. Enfin, c'est bien dit qu'ils se sont réfugiés dans le monde des humains. Donc,
et qu'en fait, ils surveillent tous les points d'accès entre les deux.
Tu parlais tout à l'heure du graphic novel.
Ouais.
Et je crois que tu es le seul à l'avoir lu, d'ailleurs.
Ah bon? c'est vraiment excellent.
À moins que tu l'aies lu, toi aussi, Benny.
Non, justement je l'ai, mais je ne l'ai pas encore lu.
Il faut le lire, hein, parce que c'est vraiment très 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 bon.
Mais justement, si tu veux nous en parler un peu plus.
Alors grosso modo, en fait, ça prend l'idée des contes des mille et une nuits, c'est-à-dire que Blanche va dans les royaumes arabiques pour tenter de forger une alliance entre Fableville et tous les royaumes arabiques. Donc elle arrive chez le sultan principal, il la fait poireauter pendant des semaines, et finalement quand elle se présente à lui, elle lui dit, grosso modo, il lui dit que En fait, il va passer la nuit avec elle, puis le lendemain, il la décapitera. Puisque depuis 3 ans, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire, il prend une épouse tous les soirs, et le matin, il la fait décapiter.
Bah, c'est donc, comme Bluebird, quoi.
Voilà. Voilà. Et en fait, pour sauver sa vie, elle commence, en fait, à lui raconter des histoires sur les autres royaumes d'où elle vient. Et à partir de là, on a pas tout le passé, mais pas mal de détails sur le passé de beaucoup de personnages, dont Blanche. Puisqu'on a le mariage de Blanche avec le prince, et quand est-ce que ça a merdé.
Et ça se situe où? Ça se situe où dans l'histoire de Fable, chronologiquement, ce graphique
Chronologiquement, ça se situe, je crois qu'en fait, c'est dans l'histoire de Fable, c'est le 19e siècle. Donc c'est vraiment au tout début de la... Même pas au tout début, mais bien avant notre époque.
Je pense qu'il faut peut-être mieux le lire après l'arc sur les Arabian Nights, en fait, pour mieux apprécier. Pour mieux comprendre les royaumes arabiques, etc.
Bah ça dépend en fait si dans Arabian Nights il y a peut-être des références justement à ce truc-là, non ?
Non, il n'y en a pas.
D'accord.
Ah si, il y a une référence, mais très très brève, où Blanche évoque son voyage là-bas, mais elle n'entre pas dans les détails.
D'accord.
Et c'est excellent. Puisqu'on a des personnages, même par exemple comme Mouche, qui est, on se dit c'est le personnage secondaire par excellence. En fait, on se rend compte qu'il a vraiment un passé très très lourd hein, quand même.
D'accord.
Voire limite choquant. C'est rude. Et puis franchement, pour une fois, en fait, Panini n'a pas chié l'édition, donc ça n'a pas raté, hein, vraiment.
C'est une édition cartonnée, c'est un grand. C'est cartonné là. C'est vraiment. C'est pas souple, ouais. C'est vraiment cartonné. Et ça
les dessins sont. Je crois qu'il y a une douzaine d'artistes dessus.
Il y a des mélanges entre de la bande dessinée classique et des passages en texte pur.
Mmh. Donc on a, voyons, le passé de Blanche, le passé de Mouche. Le passé de la sorcière, là, comment elle s'appelle
Frau Donc, machin, là.
Voilà, voilà, le nom qui nous a... Voilà, dans son passé aussi qui est révélé. Et on se rend compte qu'en fait, elle est quand même à la source de pas mal de sortilèges ou de maléfices qu'on rencontre dans la série. Puisque c'est elle qui est à l'origine, par exemple, du maléfice sur la bête.
Ah oui, d'accord.
Voilà, donc on se rend compte qu'elle a fait quand même pas mal d'horreurs au fil des années. Vraiment, mais c'est horrible, quoi.
Oui, mais il y a eu cette grande amnistie.
Voilà, elle s'occupait des fêtes d'anniversaire, non?
Voilà, ouais. Pour les enfants, ouais. Notamment.
Parce que Totten Kinder Surprise.
Ça, c'est mauvais.
Voilà, donc ça, c'est la tradition de Mixity, attention, Van Poirose.
Mais justement, en parlant de ce qu'elle a fait, qui était horrible et tout, on n'a pas parlé de quelque chose qui est assez important quand même. En fait, quand ils sont venus se réfugier dans le monde des humains, des communs, il y a eu une grande amnistie par rapport à ce qui a pu être fait avant, parce que mettre ensemble un loup, par exemple, avec le petit chaperon rouge, ce genre de choses, enfin... Voilà, dans les contes, ils ne sont pas forcément copains. Donc du coup, on oublie ce qui a été fait avant et on repart à zéro, en gros, quoi.
Oui, mais enfin, Big B n'a toujours pas le droit d'aller à la ferme.
Bah, c'est le seul truc.
Bon, mais il trouve une astuce, donc pas grave. Faut lire, c'est là dans l'arc les loups. En fait, il trouve une astuce. Donc.
D'accord.
Ah, j'ai hâte de lire cet arc-là.
Bah, ça va toucher ta fibre romantique, on va dire.
Ouais, je m'en doute, ouais. Qui va venir voir sa demoiselle et tout.
Oh, pas que ça. Pas que ça. Bah, plus loin que... Bon, moi, je te paye une petite visite.
Il y a le personnage de Jack qui a pris énormément d'importance tout au long de la série. Il a même eu droit à sa petite histoire en deux parties. Et surtout, il a eu droit à son spin-off, qui est le premier fable, en tout cas, à avoir sa propre série. Et je sais pas si tu en as lu aussi, Benny.
Non, du tout, non. J'ai jamais commencé Jack of Fables.
Sam, tu es encore le seul à avoir lu Jack of Fables, donc si tu peux nous en parler un petit peu aussi.
Donc en fait, ça raconte les histoires de Jack en fait après son aventure à Hollywood, puisqu'à la fin de cet arc, en fait, il a quasiment tout perdu, sauf 3 millions de dollars ou quelque chose comme ça.
Ah, donc il arrive même à mettre 3 millions dans sa valise.
Voilà, ouais. Donc c'est une grosse valise, hein. Des gros billets. Bon, il va pas les garder longtemps, donc...
C'est Jack en même temps, c'est pas étonnant.
Voilà, c'était déjà étonnant qu'il ait du succès, puisque avant on le décrivait comme un gros loser, et puis là il fait fortune. Bon, d'accord.
Et finalement, fortune dont il jouera pas très longtemps et qui revient à Fableville. Donc,
Voilà. Et en fait, on le voit aller sur les routes et notamment rencontrer, je crois que le nom de personnage c'est Mr. Dark, donc Mr. Revision, un truc comme ça. Mr. Revise, non?
Ah, je
Là,
sais
je ne
pas
sais
du
pas
tout.
parce qu'on n'a pas lu, donc.
Voilà, en fait, c'est un personnage qui capture toutes les fables, enfin tous les personnages fables,
Oui.
et efface petit à petit leurs souvenirs de la mémoire des communs, ce qui fait qu'au bout d'un moment, ils deviennent mortels.
D'accord.
C'est
D'accord,
assez
oui.
énorme. Et donc, par exemple, tu as un personnage, une tête en œuf.
Ouais.
Donc c'est là qu'on retrouve par exemple d'or. Et donc en fait c'est à partir de là en fait. Donc il se fait capturer et tout le premier arc c'est comment il va essayer de s'évader. Et il s'est
D'accord.
envoyé boucle d'or aussi au passage.
Normal.
Voilà. Ah ben quand même c'est quand même explicite, parce que je crois que le premier épisode c'est fini avec boucle d'or sur son pull. À poil sur son pull. Donc on se doute un peu de quelle direction ça va prendre. Hein.
Mais j'ai oublié de préciser que Jack of Fables n'est pas écrit que par Willingham.
Oui,
Willingham
Mathieu
donne juste
Strauss.
le concept et c'est Matthew Sturgis voilà, qui écrit. Les dessins sont de Tony Atkins et l'ancrage d'Andrew Peppoy.
Et le second arc qui est paru en français, c'est Jack à Las Vegas.
Ce qui peut être très intéressant. En tout cas, moi je sais que c'est une
Voilà.
série qui m'attire beaucoup, quoi.
C'est beaucoup plus délirant que Fable. Vraiment, c'est le personnage de Jack qui se lâche complètement. Et chaque fin d'épisode, en fait, finalement, je vais faire ça, je vais faire ça. Et dans toute ma gloire, dans tout, voilà, avec je dirais son humilité naturelle.
Les covers de Jack of Fables sont très très bonnes en plus, puisque à chaque fois sur le titre, juste au-dessus du titre, tu as un surtitre qui t'annonce. Et notamment, on voit des choses comme les femmes tombent automatiquement enceintes rien qu'en regardant Jack of Fables et ce genre de choses.
Voilà.
Et c'est toujours
Mais
très drôle.
ça finit comme ça en fait. T'as des petites annotations en bas qu'il faut lire parce que ça sonne très drôle. Et ben, en fait, il y a un lien dans le second arc avec Fable, puisque en fait, on t'explique toute sa période de Jack Frost.
D'accord.
Et en fait, ça a un lien avec Fable puisque disons qu'il a eu une petite aventure avec la dame.
D'accord.
Grosso modo, et en fait, il explique que en fait, à un moment, elle est tombée malade et qu'en fait, il lui a piqué ses pouvoirs. Donc
C'est un des personnages les plus abjects de la série, en fait,
ah oui.
mais il est toujours très sympathique, c'est ça qui
Ouais.
est énorme.
Mais il est vraiment hurlé de rire, en fait, pour ça.
En tout cas, si c'est aussi sympa que le premier épisode, là, où il était avec la
Hollywood.
mort et après la guerre civile,
Ah
là...
oui,
Plus. Franchement, c'est mieux. Parce qu'il développe le truc et c'est encore plus délirant, en fait. Plus fantasque, plus... En fait, c'est plus. Voilà.
Mais le truc, c'est que c'est pas du tout la même atmosphère que Fable.
Tout à fait.
Ah oui, c'est
C'est
clair.
complètement différent.
Faut vraiment pas dire ça en s'attendant à retrouver la même ambiance qu'on a à l'intérieur de Fable, parce que on va être déçu sinon.
On ne retrouve pas du tout l'adversaire ou de très loin, c'est vaguement évoqué, mais sans plus.
Bah,
Voilà,
ça
mais
va
c'est.
avec le personnage. Le gars, de toute façon, il voit d'abord son intérêt en premier, donc finalement, c'est un peu logique que ce qui se passe à une échelle un peu plus grande soit pas vraiment son objectif principal, quoi.
Et puis on annonce dès le début qu'en fait il reviendra jamais à Fable.
Oui, en
Enfin,
plus.
Fable.
Oui, c'est vrai que
C'est
c'est
clair dès le
annoncé
début.
tout de suite, ouais.
Sachant que le second parc à Las Vegas est encore plus indé que le premier.
Et le prochain tome d'ailleurs paraît au début du mois prochain, enfin du mois d'août. Donc voilà.
Dans le déluge de sortie.
Oui, du mois d'août.
Voilà.
De quoi pourrait-on encore parler qu'on a oublié?
Ouais, je pense qu'on a fait le tour là de Fable, non?
Bah, tout simplement, peut-être en définitive, quels sont les, je sais pas, votre top 3 des personnages, ceux que vous avez, ceux qui vous intéressent le plus?
Oh, je pense que. Enfin, moi je pense que ça a été assez clair, non?
Oui, bah Snow White, mais.
Bah, Snow White, Bigby et Blue Boy.
Alors moi je dirais Jack, Bigby, et puis Ah moi j'aime quand même l'intrigue en fait c'est deux personnages qui vont ensemble quoi, c'est Boy Blue et puis le Chaperon Rouge.
D'accord, Sam,
Ben
pour toi?
moi je dirais Bigby, ouais. Ben aussi Blanche-Neige, parce que franchement la réinterprétation est géniale. Et Cendrillon.
D'accord.
Mais moi ça va pas être beaucoup différent de vous, hein. Bigby en premier, pareil.
Ouais.
Snow White parce qu'elle peut pas aller sans Bigby, finalement.
Ouais, il passe quand même des années sans lui.
Ouais, mais enfin, je veux dire, c'est le couple, quoi. Enfin,
Ouais.
et puis son évolution est vraiment différente, quoi. Et puis ben, j'aime bien aussi Cinderella, en tout cas le peu que je l'ai vu.
Ben, si on espère tous avoir la mini.
Oui.
Va
Enfin,
quelque
sachant qu'elle
chose,
vient
quoi.
juste de sortir aux États-Unis, c'est pas pour tout de suite, hein.
Non, parce que
Il y a
vraiment.
Peter et... Il y a une nouvelle qui s'appelle Peter et Max. Alors, je ne sais pas si tu l'as lu, Sam.
Non, non.
Bah, c'est pareil, ça vient de sortir aux États-Unis en début
Voilà, donc.
d'année.
D'accord.
Et c'est donc sur le personnage du joueur de flûte, de Hameline.
Oui, parce que, ah oui, d'ailleurs, il y a, je parlais de la sorcière tout à l'heure, puisque c'est aussi elle qui lui a donné sa flûte.
D'accord.
Donc vraiment, elle est à la source de pas mal de,
ouais,
de trucs.
Ça aurait limite pu être elle l'adversaire. Très bien, je crois qu'on a fait vraiment le tour là, en tout cas assez pour éviter de trop spoiler ce qui se passe.
Oui, on évite vraiment là.
Parce que plus on en parle, plus c'est difficile de pas trop lâcher d'infos qui pourraient en tout cas vous rabaisser un petit peu le plaisir de la lecture.
Gâcher le truc.
En tout cas, je crois qu'on est tous unanimes, hein, c'est une série qu'il faut absolument lire.
Passez le premier arc et allez-y.
Ouais.
Vous allez voir, c'est addictif, mais à haut niveau.
Vraiment. Ça fait partie de ces séries qui sont des comics, mais qui n'ont rien à voir avec les super-héros classiques et qui sont vraiment dans un autre univers. Et voilà.
Non,
et
même d'ailleurs, en fait, c'est vraiment un truc totalement à part, en fait.
Ouais. Quand on voit quand même les ventes aux États-Unis, on se rend compte, c'est vraiment un truc qui se vend surtout au niveau des TPB et pas vraiment en single. Hein.
Oui, c'est sûr.
Mais c'est pas étonnant, hein, de toute façon.
C'est pas le même public, hein. Franchement. C'est vraiment le public là, des librairies, des adultes.
Voilà, ouais. C'est aussi le fait que c'est du vertigo, c'est pas du super-héros, donc c'est vraiment un truc qui se vendra plus en bouquin relié qu'en single, ça c'est clair et net.
Enfin, c'est quand même une série qui est rentrée dans le New York Times best-seller, qui a gagné de multiples Eisner Awards, enfin, tout ça c'est mérité, quoi.
Non, mais vraiment, dès qu'il y a un volume qui sort, ça écrase tout, hein, dans le...
Ah, mais c'est pas étonnant, hein.
Dans le top des graphic novels, c'est-à-dire que Marvel, ils ont du mal à en vendre 5-6 000 de leur Skyfar, et Fable, ils sortent un tome, ils en vendent 10-15 000 dès le premier mois de sortie, donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une série dominante avec, comme Walking Dead, ce genre de trucs, ou même XTY, ils vendaient à ce niveau-là aussi, donc c'est vraiment, vraiment pas du tout le même public.
C'est vraiment voilà des séries à part, comme tu citais Walking Dead justement, ça, c'est tout à fait ce genre de séries qui n'ont pas du tout le même public que les gens qui lisent du Marvel ou du DC et qui lisent quasiment que ça. Mais franchement, je pense que tout bon lecteur de comics se doit d'aller jeter un œil sur ces séries parce qu'elles valent vraiment le coup. Parce que ça reste malgré tout du comics, mais avec un type de narration, avec des thèmes abordés qui sont vraiment différents de ce qu'on a l'habitude de voir et qui sont pourtant tout aussi bons.
Mais c'est-à-dire qu'on regarde en fait tous les critères qu'on a pour une série, c'est-à-dire bon personnage, de bonnes histoires, de bons dessins, et en fait, on peut quasiment mettre le maximum partout. Hein.
Oui, oui, c'est clair. Et des belles covers aussi.
Voilà. Tout à fait.
Qui James Gunn qui a gagné quand même pas mal de prix pour ses covers. N'en déplaise à certaines.
Ben oui.
On va te forcer à aimer, tu vois. Bon.
Vous allez me quoi? Vous allez me planter des covers devant les yeux et jusqu'à ce que je
On va te faire comme ça. comme le petit cochon.
Super.
La tête sur
ma défense, non, chérie.
La tête
voilà,
sur
et
une
puis on,
pique
on mettra la photo
posters.
Sur Comic City.
Ouais. Voilà, très bien. Bah, je crois qu'on a vraiment fait le tour. Donc, si vous avez un dernier mot, allez-y.
Lisez ça. Nous vous l'ordonnons.
Ouais, c'est un incontournable. Vraiment.
Ouais, moi je regrette
ouais,
pas.
C'est l'œuvre majeure de Willingham, incontestablement. Et voilà, et c'est un tour de force d'avoir réussi à prendre tous ces personnages bien connus et d'en avoir fait un univers totalement propre et une série grandiose, quoi.
De toute façon, une série, même chez Vertigo, qui ont des critères de vente moins hauts que chez Marvel et chez DC, mais qui atteint quand même presque 100 numéros, enfin, qui va les atteindre d'ici peu de temps, qui a un spin-off, voilà, il y a quand même un minimum de lectorat, donc c'est...
Ah, mais ça a une
Autant
base
de
fans.
Ils ne peuvent pas se tromper. Voilà, c'est pas possible.
Et... Ça se vend aux alentours de 20 000 exemplaires aux États-Unis en single. Et c'est d'une stabilité, mais incroyable.
Une et je pense que si jamais vos femmes, petites copines, enfin voilà, ne sont pas forcément dans le trip comics, hein, je pense que ça pourrait quand même leur plaire. Ne serait-ce parce qu'elles vont se laisser abuser par la couverture qui ne veut rien dire. Donc je pense même que voilà, quelqu'un qui ne lit pas les comics peut apprécier Fable. Et vraiment, aimer ça, quoi.
Ah bah alléluia, j'ai envie de dire, hein, franchement, puisque c'était pas gagné il y a encore quelques jours, quand on te disait d'en lire, et puis finalement, voilà.
Ah bah là, je pense que l'enregistrement se finit, là, elle va se jeter sur les épisodes suivants. Hein.
Ouais, là, franchement, ouais, là, tu vois, je savais qu'il y avait l'enregistrement qui venait, mais sinon, j'aurais continué à lire tout ce que j'avais, quoi.
Tu vas aimer l'épisode 50.
Ouais, mais parce que malgré que je ne l'ai pas lu, je sais ce qui s'y passe.
Voilà.
Donc là, on va vous laisser, puis moi, je vais retourner à ma lecture.
Ah, t'as hâte que ça termine.
Ah ouais, un peu.
Ah oui, parce que ça fait 2 heures qu'on lui dit, mais c'est très bien l'arc suivant.
Il faut pas sauter d'épisodes. Hein.
Si, si, je vais sauter, je vais pas lire la Arabic Night, je m'en fiche. Hop, je vais aller direct au 50.
Ouais. Faut...
Oui, mais voilà. Tu vas rater le tout préparatif avant.
Non, mais non, je sais. Malgré tout, hein, je suis quand même bien comme il faut, et donc je sais qu'il faut lire dans l'ordre. Donc même si ça me fait chier, je le fais, parce que c'est comme ça qu'il faut lire.
Pas le choix.
Voilà. Puis bon, il y a Steve derrière, donc si je fais pas comme il faut, je vais me faire taper sur les doigts.
Mais pas que les doigts.
Et pas que les doigts.
Nous n'irons pas plus loin. Par décence. Bien, donc c'est tout pour ce spécial. On se retrouve pour un prochain spécial le mois prochain.
Très spécial.
Très spécial.
Très très spécial.
Très spécial.
Nous ne dirons pas
plus. On n'en dira pas plus.
Le nom de la série, ce sera 7-6. Ce sera sur les 7-6.
Donc, on espère que vous avez apprécié ce spécial, que ça vous a donné envie de lire Fab si vous n'y étiez pas encore mis. N'hésitez pas à y aller de votre commentaire pour nous dire ce que vous aussi vous pensez de la série. Peut-être des angles que nous n'avons pas abordés, qui ne sont pas venus comme ça, mais que vous avez vus et que vous voulez nous faire partager, ce sera avec plaisir. Sur ce, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur le site bien évidemment. Vous retrouvez tous les épisodes sur iTunes. Et puis, on se retrouve bientôt pour un Comics Weekly, bientôt pour un Comic City, et un tout petit peu moins bientôt, mais bientôt quand même, pour un nouveau spécial. À bientôt. Vous dites pas au revoir.
Ciao, ciao, et merci Sam de ta participation.
Merci de m'avoir invité. Hein.
Bien sûr, avec plaisir.
Et sinon, Chipolata.
À bientôt tout le monde.